Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio. Toujours un grain de sel dans nos vies. Les éclats de lire. Et bonjour Fabien, bonjour auditrice, auditeur de Radio Escapade, et bonjour Claire Canté avec qui je suis au téléphone.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Ça va bien, il fait beau donc je suis ravie.
Et c'est formidable pour le printemps qui arrive. Alors Claire Canté, vous êtes autrice et illustratrice pour la jeunesse. Vous êtes bien évidemment invitée au festival Les Éclats de Lire qui aura lieu au mois de mai au Vigan. Et on va, pendant une petite heure, parler un petit peu de quelques-uns de vos livres et de votre travail.
Ok, super.
Alors, vous avez fait, je crois, les Beaux-Arts.
Oui,
pour
oui,
commencer. Là, est-ce que c'est une formation qui vous a bien préparé au métier d'illustratrice pour la jeunesse?
Ah, pas du tout, non. Enfin, pas du tout, non, j'exagère.
Un minimum.
C'est-à-dire, on apprend... Enfin, c'était des années absolument magiques, mais peut-être ce que j'ai appris là-bas, c'est à me débrouiller toute seule et à être autonome. Et par exemple, j'organise ma journée sans dépendre... d'autres que mes impératifs, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend très vite aux Beaux-Arts, puisque c'est un petit peu d'ailleurs déroutant. On arrive, enfin, moi je sortais en plus juste de mon lycée, je suis rentrée jeune aux Beaux-Arts, donc et très surprenant, ben, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Donc, panique totale et en même temps grande liberté, donc formidable. Mais en revanche, au niveau technique, non, il y a des écoles qui sont beaucoup plus faites pour ça. Et d'ailleurs, je faisais pas du tout l'illustration. Quand j'étais au Beaux-Arts, je faisais de la espèce de barbouille abstraite. Je me prenais un peu pour Jackson Pollock. Je faisais des grands formats au sol et puis voilà. Puis après, j'ai tâté un peu de la sculpture, un peu de l'installation. Puis finalement, j'ai passé mon diplôme en photographie. Et voilà. Puis quelques années après, j'ai essayé d'être photographe. Alors à la fois ce qu'on appelle photographe plasticienne. Donc j'ai fait quelques expos dans des galeries, des trucs comme ça. Puis à côté de ça, pour gagner ma vie, je faisais de la photographie plus alimentaire. Et puis voilà, les enfants sont venus. Je me suis intéressée à la littérature jeunesse.
Oui, parce que c'était pas en entrant aux Beaux-Arts que vous aviez déjà ce projet de travailler dans l'édition jeunesse.
Pas du tout. C'est venu ensuite. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, curieusement, après, j'ai croisé des amis qui me disaient :« Mais c'est pas grave, Claire, tu reviendras à l'art. » J'ai dit :« Non, mais n'ayez crainte. J'ai enfin trouvé ce que j'aimais. C'est merveilleux. Donc il y a pas pour moi, j'ai pas une espèce de déchéance ou je sais pas quoi. Je me suis rendu compte que l'art contemporain, c'était, je sais pas, soit un trop gros morceau. Soit un morceau qui ne m'intéressait pas. Et je me suis dit que, raconter l'histoire d'un dragon anorexique, ça me faisait plus marrer que... Enfin bon, c'était plus mon univers.
Et la littérature jeunesse, cet univers-là, justement, vous dites que vous l'avez découvert avec vos enfants et pas avec lorsque vous-même y étiez enfant?
Non, avec les enfants, parce que d'abord, on a un choix merveilleux. Donc, j'ai puisé là-dedans avec bonheur. J'en ai acheté pour eux, j'en ai acheté déjà avant. Et puis, j'ai essayé de faire un bouquin avec eux et pour eux. Et donc, alors là, la photo m'a un petit peu servi, mais bon, pas plus que... Voilà, j'ai pris mon fils en photo. Je lui avais fait un petit costume de lion pour sa fête d'école. Et j'ai pas cherché bien loin, en fait. J'ai raconté l'histoire de mon fils qui, à l'époque, se prenait pour un lion. Ça aurait été la semaine d'après, ça aurait été l'histoire d'un dinosaure, enfin voilà, comme sont les enfants. Et donc j'ai fait une petite maquette comme ça avec les photos de mon fils en collage, que je mélangeais avec des images puisées dans les Paris Match. Et voilà, ce collage un peu loufoque où on voit des humains avec des têtes d'animaux et puis mon fils au milieu de tout ça qui se prend pour un lion, qui grogne et qui va. Et je suis allée au salon du livre avec ma petite maquette. On m'avait dit, mais vraiment, fais pas ça, c'est n'importe quoi, ils vont pas te recevoir. Et puis, les étoiles étaient bien alignées parce que j'ai rencontré le poisson soluble un soir de vernissage. Et puis, donc l'atelier du poisson soluble, ils étaient deux. Il y avait Olivier Bellhomme et Stéphane Kerriot. Ils m'ont dit, bon, bah, t'as 5 minutes pour nous montrer, vous avez 5 minutes pour nous montrer votre projet. J'ai eu ces 5 minutes et à l'issue des 5 minutes, ils m'ont dit, bah, c'est bon, on publie. Donc c'était assez magique.
Voilà, oui, comment j'imagine. Ça a commencé.
Et c'est le début d'une longue collaboration avec l'Atelier du Poisson Soluble. Vous avez fait pas mal de bouquins avec eux.
Oui.
Justement, en 2006, j'allais en parler, Victoire sans tête. Là, c'est une collaboration avec le Musée du Louvre. Donc peut-être que ça vous a rappelé un peu vos études aux Beaux-Arts.
Oui, alors quand j'étais aux Beaux-Arts, j'allais pas, c'est un peu la honte, mais j'allais pas aux Beaux-Arts parce qu'on était à fond art contemporain. D'accord. Mais je voyais quand même de mon atelier, parce que Quai Malaquais, en fait, les Beaux-Arts sont face au Louvre. Donc de mon atelier, j'étais chez Annette Messager, je voyais les bâtiments du Louvre.
Mais sans le connaître plus que ça. Mais là, je pense que vous avez pas mal arpenté le Louvre pour préparer cet album jeunesse qui s'appelle Victoire sans tête. Est-ce que vous pouvez un peu parler de l'histoire de cet album?
Alors, c'était une commande du Louvre aux poissons solubles. Donc, voilà, ils ont demandé des histoires et puis ils ont retenu la mienne. C'était formidable parce que c'était carte blanche. Je pouvais raconter n'importe quoi à partir du moment où on faisait intervenir les œuvres du Louvre. Et puis, j'avais vu, il y a toutes sortes de livres, hein, mais pas mal de livres un petit peu plus pédagogiques sur l'histoire de l'art. Et moi, j'avais envie de faire un truc un peu rigolo. Donc voilà, je suis partie de cette histoire de cette femme sans tête qui doit être mariée et du coup, on doit lui trouver d'abord une tête. Et ça, c'est un prétexte à passer en revue toutes sortes d'œuvres depuis les îles de Pâques jusqu'au tableau du 17e. Et alors, ce qui était formidable, j'ai appris en cours de route, enfin formidable, au début, c'était un peu un handicap, mais on n'avait pas les droits, c'est une histoire interne, hein, mais bon, on n'avait pas les droits pour les photos. Alors, du coup, ils m'ont demandé d'aller faire les photos, sinon il fallait payer super cher pour chaque photo imprimée dans le livre. Et du coup, c'était génial parce que comme j'ai
heureusement que vous faisiez de la photo.
Oui, ça tombait bien. Et j'ai pu aller au musée du Louvre quand c'était fermé le mardi. Et alors ça, c'était merveilleux parce que j'avais le musée pour moi. Et du coup, forcément, on entretient une relation privilégiée avec les œuvres quand on est seul avec elles. Et ça m'a vachement émue. Je me souviens quand j'étais là-bas pour mes photos, il y avait une expo 1 qui revenait. Et donc, il y avait Mademoiselle Rivière, que j'aime tant, qui était là, posée. Enfin, ça change pas grand-chose, mais si, malgré tout. Elle était là, posée contre le mur et pas accrochée là où elle aurait dû être, parce qu'elle était en train... Et du coup, il y avait une proximité. Et puis, il y a aussi... à ce moment-là aussi, j'ai vu passer... celle qui n'a pas de bras, la Vénus de Milo, dans un énorme chariot super rembourré parce qu'elle changeait de place. Et voilà, du coup, c'est fou de voir les œuvres comme ça, un peu dans leur... dans leur intimité.
Oui, c'est beaucoup de chance. Voilà. Et alors, vous avez réitéré un petit peu avec Voté Victorine ce principe de reprendre des œuvres d'art, et là, vous les détournez pas mal. Je crois que c'est au musée d'Orsay plutôt
C'est ça. Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais, ouais. Et alors là, j'ai pas eu à faire de photos parce que c'était les bonnes cases. La RMN, c'était les mêmes maisons d'édition, donc on avait les photos. Mais je suis allée beaucoup au musée. Et c'était chouette d'y retourner parce que pendant mes années d'étudiante, j'ai été gardien de musée longtemps, plusieurs mois dans ce musée. Donc c'était chouette d'y retourner. Et donc là, je savais que je voulais partir du déjeuner sur l'herbe, parce que ce tableau m'a toujours intriguée depuis petite. Ouais. Je me demandais ce qu'elle foutait à poil avec ces hommes habillés. Et puis voilà, donc j'allais partir de là, je savais en gros ma trame, je savais vers où elle allait aller. Mais après, c'est chouette parce que je visitais le musée avec l'idée de faire un casting. Je me disais, ça serait bien, ça nourrirait le projet. Après, j'ai pas forcément choisi mes tableaux préférés, j'ai choisi les tableaux qui allaient servir l'histoire. Mmh. Et puis, j'ai essayé aussi... Mais alors, c'est tellement rare, des tableaux de peintres femmes. J'ai réussi à caser Eva González. J'aurais énormément voulu mettre Rosa Bonheur, mais après, ça alourdissait l'histoire, c'était pas possible. Donc, outre ce petit impératif, je voulais trouver un peintre femme. Sinon, je choisissais les tableaux en fonction de... Enfin, pour qu'ils racontent mon histoire, quoi.
Et donc, c'est l'histoire de Victorine qui a une... qui commence à avoir une vie très ennuyeuse, en fait. Mais finalement, il y a un petit détail imprévu. Il y a ce fameux déjeuner sur l'herbe où elle se retrouve toute nue à cause d'une blague de ses cousins. Et là, elle décide enfin de prendre sa vie en main. Et là, enfin, il lui arrive plein de choses extraordinaires.
Voilà, ouais. Mais alors avec quand même les codes du 19e, parce qu'effectivement, première chose, elle cherche une culotte et après, elle se cherche une vie. Et comme on est quand même, c'est une héroïne du 19e, elle est obligée de se travestir en homme pour grimper les échelons et puis après, elle montre tout et voilà. Et elle devient, alors ça tient un petit peu une fable. Mais voilà. Et puis là, contrairement à Victoire sans tête, où j'avais un peu tout coupé dans tous les sens, j'ai gardé la totalité des tableaux et mon héroïne, elle ne fait que rentrer et sortir des tableaux et quand même, on garde un petit peu le tableau dans son intégrité. Voilà.
Mais
et
vous d'ailleurs, avez ajouté des éléments.
Pardon ? Oui.
À côté des tableaux, oui, voilà. Parfois au milieu, vous ajoutez des personnages pour ajouter de la narration.
Oui, voilà. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Cet album a été... Il y a une compagnie de danse contemporaine qui s'est emparée de l'album et a fait un super beau spectacle, j'en profite pour en parler, et qui s'appelle Victorine, de tout court, Victorine, point d'exclamation. Et c'est une forme dansée pour deux danseurs, hein, un danseur, une danseuse. Et c'est tout l'album, voilà. Et c'est un super beau spectacle de trois quarts d'heure. Qui est joué par la compagnie Moipo. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, je ne sais plus. Oui, alors on voit bien quand même qu'il y a pas mal de messages engagés. Depuis tout à l'heure, vous dites « je regrette de ne pas avoir fait plus de tableaux par des femmes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui prend sa vie en main et qui est obligée de se travestir pour y arriver. »
Ah ben oui, et d'ailleurs c'était un petit clin d'œil notamment à, c'était une affiche, c'était fin des années 80, c'était en 89 je crois, ouais, il y avait, après c'est devenu une œuvre, elle est rentrée elle-même cette affiche dans les musées, et c'était les Guerilla Girls qui avaient fait ça, et on voit de dos un nu d'Indre avec une tête de gorille à la place de la tête, et c'est marqué, est-ce que les femmes ont besoin, je sais plus la phrase exacte, mais c'est, est-ce que les femmes doivent être à poil pour pouvoir rentrer au musée. Parce que ces Guerilla Girls avaient remarqué que c'était au Metropolitan Museum à New York, il y avait moins de 5% de femmes artistes. En revanche, 85% des nus étaient des femmes. Donc elles disaient, voilà, pour rentrer au musée, nous les femmes, on est obligés de se déshabiller.
Voilà, donc il y a également un message critique sur l'histoire de l'art qui est très appréciable dans cet album aussi, ouais.
Ouais, donc c'est pour ça que je voulais
engager à plus d'un titre.
Ouais.
Bien, voilà. Merci.
Et les hommes, c'est très drôle d'ailleurs, parce que les hommes, on en a peu, nus, et ils sont toujours dans des positions guerrières, des trucs sensés, soit avec juste un chapeau. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un homme nu dans mon album, mais je n'ai pas pu l'avoir parce que c'était une collection, justement, je l'avais vue à Orsay, mais c'était une collection américaine, et donc je l'ai redécoupé, et c'est un nu de Caillebotte, et c'est un homme à sa toilette, et c'est quelque chose de ultra rare, parce qu'on voit des milliards de femmes à leur toilette ou à l'anguille sur leur lit ou tralala, mais des hommes, généralement, ils sont à poil avec une épée et un casque, quoi. Ouais. On les voit très rarement. Et j'aimais beaucoup ce tableau de Caillebotte où on voit cet homme de dos. Mais on n'a pas eu les droits, donc je l'ai découpé. Je vais le faire en papier.
D'accord, je comprends mieux. Ok, on va faire une première pause musicale avec l'un des morceaux que vous m'avez proposé.
Merci.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. But where do I go? Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. Got my tongue, got my chin, I got my neck, I got my boobs, got my heart, I got my soul, got my back, I got my sense.
Vous êtes également autrice de romans pour les enfants et pour les adolescents. Je viens de dévorer votre dernier roman qui est paru l'an dernier chez Syros, Les Vies d'Avril. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'histoire de cette adolescente qui est affabulatrice?
Oui, alors pour ce roman, effectivement, je cherchais un peu par quel bout prendre les choses et je suis partie juste du mot menteuse. Après, elle n'est pas que menteuse, hein, là, pour Avril. Mais voilà, je suis partie de là et puis après, j'ai essayé d'étoffer ce mot et puis de trouver une figure. Et au début, elle s'appelait Solène, ça n'allait pas du tout, elle était vraiment insupportable. Alors, je lui ai cherché un prénom que j'aimais et voilà, Avril. Et du coup, elle avait subitement beaucoup plus d'humanité. Et alors certes, elle est un peu insupportable, un peu beaucoup affabulatrice, mais aussi malheureuse. Elle se cherche, elle se comble souvent à ces âges-là. Et donc, elle a besoin de se construire un monde plus grand, plus où ça va plus vite, plus fort. Et voilà, c'est Avril.
Et pourquoi vous avez choisi d'écrire sur une anti-héroïne?
Elle est anti-héroïne. Oh, elle est... Je me rends même pas compte.
Elle va loin quand même dans ses mensonges.
Oui, c'est vrai.
C'est elle qui dessine. Enfin, elle se laisse avoir à son jeu de mensonges. Mais c'est par elle que les ennuis arrivent quand même.
Ah ben complètement. Et pour elle et pour les autres, c'est vrai. Et mais il y a un peu un pendant plus doux, plus avec Justine, son amie. Et voilà, ça, on pourrait imaginer voilà deux phases d'un même. Pourquoi ça me paraît plus intéressant, hein, si elle avait été charmante et lisse, il n'y aurait pas eu de roman.
Alors en fait, on l'a pas dit, hein, mais c'est une jeune fille qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, qui voudrait avoir une vie plus palpitante et qui donc se lance dans les infractions de domicile. Alors elle ne commet aucun vol. Mais juste, elle aime bien s'imprégner de l'atmosphère des lieux, regarder les photos, voir un peu les secrets des gens comme ça.
Voilà. Oui, mais parce qu'elle-même, on sent bien qu'elle est un petit peu bancale et qu'il y a des choses qui lui manquent dans sa vie de famille, dans sa vie de tous les jours. Donc, elle va essayer de combler les vides comme ça. Et puis, c'est des choses qu'on a tous peut-être un plus ou moins rêvé de faire. Je ne sais pas, hein, je ne pense pas être unique.
Moi, ça m'a donné envie, en tout cas.
Alors, sans passer à l'acte, mais moi, je me souviens d'un échange, justement, quand j'étais au Beaux-Arts, et donc j'étais sans doute plus esseulée que dans ma vie habituelle, et quand je passais dans les rues, je regardais En plus, c'était en Angleterre et donc il y a beaucoup moins de rideaux. Les gens se barricadent beaucoup moins qu'en France. Et donc, je voyais des petites scènes comme ça d'intimité. Je passais dans la rue, je voyais ce rectangle de lumière et je voyais des petits bouts de vie. Et ça me fascinait complètement. Et donc, voilà. Et voilà, Avril, elle s'imagine des choses. Alors, à l'âge où... Enfin, moi aussi, j'ai dû m'imaginer plein de trucs, mais j'étais plutôt dans la phase observation de plafond. Je ne serais jamais passée à l'acte, moi. Tout ça, c'était dans ma tête. Avec Avril, c'est bien, on peut passer à l'acte. Oui.
Moi, ce que je me suis dit aussi en lisant ce livre, c'est que peut-être à cette jeune fille, il lui manque des bons romans jeunesse pour pouvoir s'évader un peu mieux.
Peut-être.
C'est un roman policier un petit peu, au bout d'un moment.
Oui. Alors, moi, je le mettrais plutôt comme roman initiatique. Je ne sais pas comment ça... Oui, enfin,
Davantage, mais il y a quand même toute l'enquête la rechercher. Et ouais. Même ce côté inquiétant et dangereux à la fin, quand elle est... Bon, on ne va pas tout raconter.
Ouais. Non, mais oui. Ah, bah, alors après, oui, c'est sûr que j'aime bien mettre toujours une petite dose, de comme dans Six jours sauvages, de... Voilà, il faut que... j'ai pas envie de perdre mon lecteur, donc je l'accroche. Donc il faut que, voilà, il faut qu'il y ait du suspense, comme on dit.
Alors justement, Jour sauvage, c'est publié chez Cyrus également, mais il y a un peu plus longtemps, c'était en 2020. C'est un roman ado encore, et là vous allez parler du bushcraft. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors le bushcraft, c'est une des variantes du survivalisme. Le survivalisme, donc, c'est très vaste. Hein. C'est à la fois un mouvement qui peut aller dans des dérives totales de femmes aussi, mais c'est un peu souvent sur les blogs, c'est plutôt des mecs, mais bon, bref. De personnes qui sont persuadées que c'est bientôt la fin du monde et que des zombies vont nous envahir. Donc, du coup, ils se préparent à ces temps... secoué en faisant des réserves, il peut y avoir même des dérives assez violentes. Mais le bushcraft, c'est une version dans les bois du survivalisme. Donc c'est apprendre à survivre avec la nature. Et donc voilà, le survivalisme, ça me fascine. Autant dans le truc complètement démentiel et c'est un peu attraction-répulsion parce qu'ils me font peur, ces gens-là. Et puis aussi le côté plus doux de retour à la nature, des micro-organisations en dehors de la société. Et donc j'avais envie, dès 2014, de parler de ça.
Mais vous connaissiez déjà cette activité, vous en aviez pratiqué, ou alors comment vous êtes documentée pour...
Alors, j'ai fait ça après, oui. Non, en fait, en 2014, j'avais rien fait du tout. J'étais juste super fascinée, puis j'avais envie d'essayer d'écrire. Et puis au bout de 2 mois, je me suis aperçue que je ne savais pas du tout écrire. C'était un cauchemar, je devenais folle. Après chaque journée de frustration, je me suis dit, ok, je retourne à mes albums, je ne sais pas faire. Et puis en 2018, je me suis dit, c'est trop bête, parce que quand même, j'ai envie d'écrire quelque chose qui se passe dans ce milieu. Je me donne quelques mois, j'essaye. Et puis là, j'avais lancé les premiers chapitres et j'ai eu une bourse du CNL. Alors je ne pouvais plus reculer. Après, je ne pouvais pas dire, ah bah tiens, c'est trop dur, j'arrive pas à écrire, je vous rends les sous. J'aurais eu l'air de quoi. Et donc, je m'y suis attelée. Ça a été très douloureux au début, parce qu'évidemment, quand on n'a jamais écrit, ça ne vient pas. Enfin, si, certaines personnes sans doute, mais moi pas du tout. Moi, je suis une besogneuse, donc j'ai travaillé, retravaillé, écrit pour qu'il sorte quelque chose. Et j'étais toujours très mécontente. Et donc, pour revenir à l'expérience, si j'ai fait un petit stage de bushcraft, juste pour nourrir en fait mon écriture, et j'ai fait un petit stage qui s'appelait Bite et couteau, un charmant intitulé, partir avec sa bite et son couteau. Et en fait, je voulais faire un truc tout simple. J'avais vu, sur Internet, on trouve plein de stages survivalistes. Et je voulais faire un truc tout simple, juste une nuit en forêt de Fontainebleau. Il n'y avait plus, c'était pas dispo. Et il fallait attendre 6 mois, et moi j'étais pressée. Et le type me dit, mais j'ai un truc, ça s'appelle bite et couteau. Alors c'est un peu plus long, et puis donc, évidemment, il n'y avait que des mecs inscrits à ce truc-là. Mais je me suis dit, allons-y. Alors c'est pas si long non plus, hein, parce qu'il y avait 2 nuits, 2 jours. Enfin, il y avait une nuit vraiment où on était sans rien. Donc le principe, c'est qu'on n'avait pas à manger, on avait juste son couteau et pas de duvet, pas de rien, pas de couverture de survie. Et donc on fallait se débrouiller. Et c'était pour moi qui suis très très éloignée de ça, c'était une sacrée expérience de me retrouver dans les bois. Toute seule avec ces gens. Et donc voilà, on a appris à faire du feu, on a tué un lapin, on a fait des des cabanes avec des branches.
D'accord. Donc c'était de la matière pour écrire Jour sauvage. Là, voilà. C'est plusieurs ados qui ne se connaissent pas, qui font une colonie, hein, un camp de bushcraft. Ouais. Donc ils se découvrent, voilà. Et c'est un roman choral.
Oui, c'est je prends chaque personne et puis c'est ça.
Il n'y a pas des personnages qui vous ont un peu plus attiré que d'autres, sur lesquels vous avez davantage envie d'écrire?
Au début, Nolan, c'était vraiment c'était une surprise, une rencontre, parce que il était là pour être un peu je dirais vulgairement, un peu le petit con de service, quoi.
Ah oui.
Et puis, il m'a vraiment touchée, ce garçon, et j'avais plaisir à écrire des aventures avec lui. Et donc, je restais plus souvent avec ce personnage qu'avec d'autres.
Il a droit à sa rédemption à la fin.
Voilà.
Et ce livre, il se passe dans les Pyrénées?
Oui.
C'est en pleine nature, et justement, ça occupe une place très importante dans le récit, hein, ces grandes montagnes et tout.
C'est, oui, la nature.
Ce sont des espaces qui existent vraiment?
Alors, un petit peu et un petit peu pas.
D'accord, ouais.
Au début, j'ai regardé sur Google Earth des endroits, et après, je suis allée... mais le roman était déjà publié, et je suis allée voir les lieux que j'avais vus d'abord sur Internet. J'étais bouleversée de les voir en vrai. Ouais. Par exemple, il y a pas mal de choses. Hein, la fin se passe au cirque de Kagatei, mais je ne l'avais jamais vu, donc j'ai vu ce cirque.
Parce que pourtant bien décrit.
Ouais, et puis la fontaine d'Ars aussi. En fait, c'est des lieux que j'ai vraiment vus après, et j'étais émue parce que c'était plus beau encore que ce que j'imaginais. Et voilà, donc j'ai découvert les Pyrénées-Orientales grâce à Ariégeoise, grâce à l'écriture de ce roman.
Super.
Mais c'est vrai que la nature est un des personnages.
Oui.
Et puis c'est ça qui m'intéressait. C'est ce roman, je l'ai vu un peu comme un laboratoire à ciel ouvert. C'est jeune, je citadin, donc très loin de la nature. Je les jette comme ça en pleine nature, et puis je regarde comment ils se débrouillent.
On l'a pas dit, mais là on est carrément dans le roman noir, un peu dans le thriller. Hein. Ça,
ouais.
Il y a des choses. Tout ne se passe pas comme prévu, et il y a une figure très inquiétante qui plane au-dessus de tout ça.
Voilà, oui, parce que voilà, ils doivent à la fois se dépatouiller avec la nature et aussi avec la folie humaine. voilà.
C'était très bien dit. Merci beaucoup. On fait une nouvelle pause musicale avant de reprendre.
It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. Keeps you in the back roads by the rivers of my memory. Keeps you ever gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on my mind. But I dip my cup of soup back from the gherkin crack and cauldron in some train yard. My beard a rough and coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I hold it to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
On disait que la nature était l'un des personnages de Jour sauvage, un roman écrit par Claire Canté, et on la retrouve dans son dernier et magnifiquement très beau album « Ton cœur bat au rythme de la terre ». Donc là, c'est publié aux éditions Courtes et Longues, et c'est l'histoire d'une rêverie en train qui et d'une reconnexion à la nature en fait.
Oui, c'est
d'une
ça.
D'une connexion tout court peut-être.
Je l'ai écrit en fait pendant le confinement. Alors je crois que j'avais très fort besoin et je rêvais beaucoup d'être dans la nature. Et je crois que c'est ça qui a influencé cet album. Et oui, si on pouvait tous lâcher nos. Enfin, et surtout, là, ça s'adresse plutôt aux enfants, c'est lâcher leurs écrans et aller mettre les doigts de pieds nus dans l'herbe. Je pense qu'on se porterait tous un peu mieux.
Dans cet album, on voit une préado, je pense, qui est dans le train, qui n'a plus de batterie sur sa tablette. Alors, elle s'endort et elle rêve. Et là, il y a une silhouette. Une silhouette avec la peau toute bleue et des cheveux flamboyants. Qui l'entraîne à la découverte de la nature et de toutes les sensations formidables qu'elle peut procurer.
Voilà, c'est ça. Et oui, je ne sais pas quand en dire de plus, mais j'ai fait des tableaux comme ça. Au début, il n'y avait pas vraiment de sens. Hein. Je faisais juste des tableaux selon mon inspiration. Enfin, des tableaux, de cascades, de mer, de végétation.
C'est bien qu'il me semblait que l'image avait peut-être précédé le texte dans cet album.
Totalement. En fait, moi, je l'ai pensé sans texte. J'avais pas envie qu'il y ait un texte. Et puis, je l'ai un petit peu présenté. Alors, je me suis pris des râteaux. Hein. D'abord, une fille à poil dans la nature et sans texte, ça faisait beaucoup. Hein, c'était le sous-texte des lettres de refus.
Et pourtant, au début, j'ai cru que c'était un album sans texte sur la première page. J'ai vraiment cru que ça allait être comme ça et j'étais surprise presque de le voir.
Oui, c'était pensé comme ça. Donc heureusement, j'ai rencontré Jean Poderos des éditions Courtes et Longues, qui a beaucoup aimé l'album et qui le soutient et tout ça. Donc ça, c'est formidable. Et mais il m'a dit, malgré tout, lui aussi avait quand même besoin d'un petit texte. Il dit léger, hein, mais comme une petite rampe pour aider le voyageur. Et alors, ça n'a pas été aisé parce que comme je l'ai pensé sans, et ben coller un texte sur un truc où il n'y a pas de texte et éviter d'être redondant, c'était pas facile. J'ai pensé, il y a quelque chose qui m'a aidé, c'est cette chanson de Jacques Brel qui s'appelle Il nous faut regarder. Je sais pas si vous voyez de quoi ça parle. Enfin, c'est Il nous faut regarder par-delà les insultes, les visages mous, la grisaille et tout ça. Il faut regarder tout ce qu'il y a de beau. N'oublions pas de regarder tout ce qu'il y a de beau. Alors là, il dit le ciel gris ou bleu, le vol d'une hirondelle, les filles au bord de l'eau. Et je trouve très très belle cette chanson. Donc ça m'a un petit peu inspiré et aidé pour trouver un fil conducteur pour mon texte. Et puis j'ai lu un peu des trucs, un peu de Tagore, l'offrande lyrique, des choses comme ça, qui m'ont beaucoup touché et parlé d'ailleurs. Et j'ai essayé d'après de faire un truc un petit peu léger, poétique, pas redondant, pour accompagner mes images.
Et au niveau des images, du style, donc vous travaillez en collage toujours ?
Oui,
en papier coupé.
Du papier découpé. Voilà. Et quand il y a des dégradés, j'ai collé ça sur des sérigraphies, parce que je fais beaucoup de sérigraphies pour moi à côté. J'ai collé du papier avec des aplats de papier coloré sur des sérigraphies. Mais bon, voilà, ça c'est anecdotique. Mais oui, c'est tout du papier découpé.
Il y a quand même certaines images assez complexes avec plusieurs niveaux de papier découpé.
Ouais, oui, c'est assez épais en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il faut mettre, je vais dire, par exemple pour la cascade, il y a mon fond, le bleu, et puis après il y a les, il y a l'eau, et puis il y a tous les rochers, puis il y a par-dessus encore toute la végétation.
Voilà, il y a plein de branchages.
Et puis, voilà.
Et au niveau des couleurs, pourquoi cette silhouette bleue, ces cheveux rouges et cette nature qui est énormément dans les bleus et dans les rouges aussi ?
Alors la fille bleue, c'est-à-dire que tous les samedis depuis des années, 10-15 ans, je dessine du modèle vivant. Et dessiner technique traditionnelle, crayon papier. Et puis les dernières années, j'en ai eu marre, je voulais un petit peu changer, et donc je suis partie avec juste mon exacto, vous voyez le petit cutter à mine triangulaire là. Et donc j'ai commencé à faire plein de nus avec du papier de couleur, des poses de... Alors 5 minutes, c'est un peu juste, mais bon, je fais des silhouettes très rapidement, ou des 10 minutes. Et alors, donc, elles sont généralement en deux couleurs. Il y a une couleur pour la peau, et puis avec un autre papier, très vite, je fais les ombres. Et donc, j'ai toute une tripotée de nus de couleurs, comme ça. Et puis, je trouvais que le nu bleu, avec les cheveux rouges, c'était beau. Donc, j'ai commencé à pendant ce confinement, où il n'y avait plus nos cours de dessin, et je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire intervenir ce petit personnage. Ouais, il est nu puisque c'est le modèle vivant. Et ouais. Donc, voilà.
Super, je vois bien du coup les cours, parce qu'on voit ce personnage dans plein de postures différentes et avec beaucoup de mouvements.
Mmh. Ouais. Elle profite bien de tous ses abattis, de son corps.
Donc, et puis à la fin du livre... La rêverie s'arrête, la jeune fille se retrouve dans le train, elle arrive à destination et la première chose qu'elle fait lorsqu'elle arrive à sa maison de vacances, c'est de sortir courir dehors dans la nuit, profiter de ce bon air frais.
Ouais, elle reste habitée par la fille bleue.
Et le voyage en train, ça entraîne des rêveries pour vous ?
Je sais, non. Pas plus. Je crois, j'ai besoin de m'occuper dans les trains.
Je me permettais la
sinon,
question.
Au bout d'un moment, ça peut un peu m'oppresser d'être coincée dans un train.
Ce livre commence par un voyage en train, comme celui de Romain Bernard, qui s'appelle Notre Voyage, qui est également invité aux Éclats de Lire. Donc j'ai beaucoup aimé de voir ces deux livres-là ensemble, côte à côte.
Super, je vais le découvrir alors.
Eh bien, on fait une dernière pause musicale avant de conclure cette émission.
C'est le pot qui se ferme. voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour,
le dernier bonheur,
c'est le lampe qui s'éteint.
On écoutait Pink Martini. Claire Cantet, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette sélection musicale que vous nous avez proposée pour l'émission?
Alors, le premier, And God No Life, c'est une chanson de Nina Simone, hein, bien
oui,
sûr, au début,
qu'on
qui est magnifique.
Et mais j'aime une belle version, ouais.
Ouais, mais j'aime aussi cette version de Rosemary Sandler. Je trouve qu'elle donne une espèce de petite grâce pétillante. J'adore de toute façon cette chanteuse. Et ça dit quand même l'essentiel. C'est merveilleux. Hein. J'ai pas de parfum, j'ai pas de fric, j'ai pas d'habits, j'ai pas de gna. Mais il me reste, voilà, il me reste mes seins, mes poumons, mes jambes, mes yeux. J'ai ma vie, j'ai ma liberté. Et il me reste tout ça. Et donc je suis riche. Donc ça, c'est absolument. C'est assez bouleversant comme chanson. Dean Martin, c'est juste la classe internationale. Ça donne envie de danser. Et je l'ai réentendu récemment en revoyant OSS 117. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez... Bon, c'est le tout début du deuxième. Et quand OSS descend les marches et qui descend avec son air crâne magnifique. Et la dernière, elle me touche, je la trouve très, très...
Le premier bonheur du jour de Pink Martini, c'est un peu une prolongation de l'album dont on vient de parler, Ton cœur bat au rythme de la terre quand même.
Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Ouais, avec le ruban de soleil, tout ça. Ouais. Et puis cette voix toute fragile et...
Alors, on n'a pas encore parlé de votre portrait chinois. Normalement, je commence par ça, mais là, j'ai dû oublier. Mais si je vous demande un livre jeunesse que vous avez envié, que vous auriez peut-être bien aimé écrire, vous nous citez Ici.
Oui. Alors d'ailleurs, je ne sais pas trop s'il est vraiment... Il n'est pas trop jeunesse, hein, je crois. Mais c'est un livre que je trouve tellement intelligent et tellement fort.
C'est une bande dessinée publiée chez Gallimard.
Voilà, c'est ça. C'est un livre incroyable, avec une unité de lieu. On est toujours au même lieu, mais pas. Alors le temps, ça commence à moins 3 milliards d'années, je crois, pour finir en 22 000 et des bananes, quoi. Et c'est, mais tout se passe au même lieu. Et donc on voit l'histoire à l'œuvre, la grande histoire avec un H majuscule et la petite histoire qui s'entremêlent. Il aborde comme ça tout doucement des choses graves. Alors on voit qu'il y a des Indiens, puis alors après les Indiens sont dégagés parce qu'il y a des colons. Et puis après, voilà, il y a des histoires qui s'entremêlent. Et à la fin, il n'y a plus que à nouveau des dinosaures. L'humanité a été balayée. Et donc c'est très très fort. Enfin, c'est incroyable. Et puis toutes les images sont belles. Il y a des doubles pages, puis parfois ça s'entremêle. Alors il y a des doubles pages toutes simples avec juste, là par exemple, je bouge et 1203, il y a un truc incroyable, une espèce de marécage avec un ciel rose, c'est magnifique. Et puis parfois il y a des petits encarts à l'intérieur même, par exemple il y a une page où il y a c'est moins 3 millions d'années, et puis il y a deux petites images en 1870, un peintre et sa compagne, et puis et voilà. Et plein de choses comme ça qui s'entremêlent, tout s'est passé au même endroit.
C'est un premier conseil de lecture ici de Richard McGuire chez Gallimard BD. Et un autre conseil, Le Détour.
Le Détour, oui, Rosane Breca. En fait, je vais souvent en Bretagne en vacances et à la médiathèque où on va emprunter les bouquins, il y avait une expo de Rosane Breca avec ses magnifiques aquarelles. Et j'ai parlé à la bibliothécaire, en disant, mais elle n'a jamais fait de bouquin et tout. Elle me dit, si, bientôt, elle va en sortir un. Alors, je l'ai guetté, c'était Le Détour. Et alors, je trouve ça... très beau, très poétique. C'est une journée d'école buissonnière de deux enfants qui croisent même un chien. Et puis, outre que elle a une grâce dans son trait. Enfin, c'est magnifique son travail. Je trouve ça très très beau. Et en plus, c'est là où je passe beaucoup d'été. Donc, ça me rappelle beaucoup de choses. C'est exactement. Je vois la maison. Je vois parce que voilà, c'est dans cet anse à Douélan. Et donc, j'ai tout d'un coup eu le bonheur, en plus de retrouver tout le travail de Rosenbrecker que j'adore, de voir mes images de vacances. Donc, je lis, c'est un vrai coup de cœur, quoi.
Ouais, un coup de cœur que vous nous proposez. Donc, c'est publié chez ce merveilleux éditeur jeunesse, La Partie.
La Partie, oui.
Ouais, pas que jeunesse d'ailleurs, je crois.
Ah oui, c'est vrai.
Non, peut-être pas en fait. C'est juste qu'ils font des livres tellement pour tout le monde.
Mais tout est beau.
Oui, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Ouais. On vous demande de nous citer une œuvre d'art que vous admirez. Et là, on part dans de l'architecture.
Oui, alors, enfin, lui, je ne sais pas s'il le considère comme une architecture. Enfin, c'est vrai que ça peut... Sky Space ou Space Sky, je ne sais plus dans quel sens. Sky Space de James Turrell. En fait, c'est parce que quand j'ai répondu à votre questionnaire, j'aurais pu dire 10 000 œuvres, il y a plein qui me touchent, mais je revenais des vacances et là, j'avais vu ce truc qui m'a... Waouh, donner carrément un coup, j'étais bouleversée. C'est juste donc un carré, c'est très très haut, c'est comme une cheminée, et c'est une ouverture, une fenêtre carrée sur le ciel. Et donc on lève la tête et on voit juste le ciel. Et donc là, il y avait un bleu fantastique de ciel d'été avec juste un petit nuage qui traversait mollement. Et ça, waouh, c'était fou, cette... émotion face à ce carré de ciel.
Et c'est peut-être ce qui a influencé votre mot préféré, ou alors c'est votre mot préféré de tout temps, de manière intemporelle.
Non. Ça, c'est un peu la flamme. Hein.
Ah oui, donc c'était influencé le mot ciel.
Oui, non, mais parce que pour moi, c'est très difficile de dire un mot préféré.
Ah, mais pour tout le monde.
Oui, non, parce que pour moi, les mots n'ont d'intérêt, enfin, c'est vraiment des outils, et ils n'ont d'intérêt que par l'association qu'on en fait. Et du coup, dire un mot, pour moi, c'est comme donner ma couleur préférée. Je ne peux pas en dire une, puisque je les aime toutes, ouais. Et elles sont intéressantes par les rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres. En même temps, ciel, quand même, si, ça sonne bien. Et puis aussi... Sans doute, j'ai pensé à cette phrase que parfois on voit, enfin en tout cas moi dans ma banlieue où j'habite, hein, c'est marqué « Regarde le ciel ». Je ne sais pas qui écrit ça, mais je trouve ça trop fort. « Regarde le ciel », c'est tout con et en même temps c'est énorme. C'est oui. Prendre du recul et puis « Regarde le ciel ». Et c'est vrai, quand tout va mal, bah, « Regarde le ciel ». De toute façon, il s'en fout, le ciel, il est là. Il est... Enfin, parfois, dans nos banlieues, justement, il est un peu pas là. Ça, c'est triste. Mais dès qu'il se passe quelque chose dans le ciel, que ce soit... même un ciel gris, un ciel bleu, un ciel de coucher de soleil, c'est le plus beau des spectacles. Donc, ouais. Donc quand même, si ça avait du sens, ce mot ciel.
Eh bien, merci beaucoup, Claire Canté. Il nous reste 5 petites minutes. Si jamais vous voulez nous parler d'autre chose, peut-être d'un projet en cours ou à venir, de votre actualité.
Ben là, je viens de terminer un album avec Guillaume Guéraud.
Mais oui, c'est vrai.
Voilà, vous savez.
Je l'ai vu passer, mais j'ai pas pu voir. Il n'est pas encore sorti.
Non, il n'est pas encore sorti. Il vient de là, vraiment, c'est tout récent. Il y a genre 3 jours que les planches sont parties à l'impression. Donc ça, c'était très chouette de travailler avec Guillaume, parce qu'on avait envie de faire un truc ensemble. Et je lui dis, moi, j'aimerais bien parler de montagne et de golem. Et il m'a dit, ok. Et donc, c'est un texte qui parle de montagne et de golem. Ça s'appelle 3 êtres étranges. Et donc, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur les mots de Guillaume. Et là, pour changer, j'ai travaillé à la palette graphique à l'iPad. C'est une grande nouveauté pour moi, parce que j'étais vraiment une irréductible du papier découpé et du concret, quoi. Pareil, oui. Pour la sérigraphie, j'aime bien la texture. Mais là, bon, bah, ça tombait bien, parce que de toute façon, j'ai eu un accident de vélo, je pouvais pas trop bouger, donc j'ai travaillé sur mon iPad. Et alors, au début, un peu frustrant, parce que c'est quand même, il n'y a plus la sensualité du papier, la manipulation et tout ça, mais c'est quand même un bel outil. Donc, je sais pas si je poursuivrai dans cette voie-là, mais en tout cas, voilà, c'est mon premier album dessiné sur iPad avec une palette graphique, enfin, une palette de couleurs assez restreinte. Enfin, je me suis donné ça comme contrainte. Et voilà, donc ça, c'est l'actualité.
Super, donc voilà, album de Guillaume Guéraud et Claire Canté, et ça va paraître chez quel éditeur ?
La Martinière Jeunesse, et ça va sortir en je sais pas, mai, juin, quelque chose comme ça.
Super. Eh bien, merci beaucoup, voilà. Claire. Et ben, nous, merci on se voit au mois de mai, les 24 oui. et 25 mai, ou 25 et 26 mai, je sais plus, au Vigan pour les éclats de lyre.
Oui, super. Merci beaucoup, Julie.
Merci
au
à
revoir,
vous.
Au revoir à tous. Au revoir.
Ici les eaux fleurissent, rient entre la vie est un délice, rient bon vers l'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Et toujours un grain de sel dans nos vies.
Les éclats de lyre.
Et on se donne rendez-vous le 17 avril avec Roland Garrigue.